France Inter, franceinter.com.
En Sicile existe une secte de voleurs dont les membres ne craignent ni la police ni la justice. Ils s'enorgueillissent du fait que les preuves à charge ne sont jamais produites devant les tribunaux en raison des pressions exercées sur les témoins. Baron Turizi Colonna, 1864. Mille ans d'histoire. En 1863, quelque part sur une route près de Palerme, le baron Turizi Colonna était attaqué par une bande de cinq hommes qui tentaient de l'assassiner. Dans l'anarchie qui régnait alors en Sicile, l'affaire en serait restée là si le baron n'avait pas publié un an plus tard un livre dans lequel il révélait l'existence de ce qu'il appelait une secte qui volait et rançonnait les Siciliens. Sans le savoir, Turizi Colonna était le premier à parler d'une organisation qui allait terroriser l'Italie pendant plus de 100 ans. Vivant de la contrebande, du racket et plus tard du trafic de la drogue, assassinant tous ceux qui lui résistaient, la trahissaient ou la menaçaient, étendant son influence jusqu'en Amérique, s'infiltrant dans tous les rouages de l'économie et de l'État italien, la mafia allait devenir si puissante qu'elle pouvait s'en prendre un jour aux plus hauts responsables de l'armée, de la police ou de la justice italienne lorsqu'en 1992, elle assassinait le juge antimafia Giovanni Falcone à l'endroit même où 130 ans plus tôt, elle avait tenté de tuer le baron Colonna.
La bombe è stata preparata invece con cura lontano dall'autostrada. Il tritolo o la nitroglicerina sono stati collocati all'interno di alcuni blocchi di cemento che poi sono
L'attentat est survenu à l'entrée de Palerme sur l'autoroute Trapani-Palerme. Une explosion d'une très grande violence a détruit la voiture de Giovanni Falcone et les trois hommes de son escorte ont été tués sur le coup. Lui, dont on avait pensé qu'il n'était que légèrement blessé, est maintenant cliniquement mort et son épouse dans un état désespéré. Le juge Falcone, qui dirigeait ces dernières années le pool des juges anti-mafia, avait été promu il y a 2 ans directeur général du ministère de la Justice. Avec son équipe de magistrats courageux, il était parvenu à faire inculper des centaines de mafiosi en Sicile. Il semble qu'il vient de le payer de sa vie.
Marianne Matarbonucci, bonjour.
Bonjour.
Et Clotilde Champérage, bonjour aussi. Bonjour. Alors, c'était l'attentat le plus spectaculaire de la mafia, commis en 1992 contre le juge Falcone. Vous le rappelez, Marianne Matarbonucci, dans une histoire de la mafia très complète, publiée justement 2 ans à peine après l'attentat contre le juge Falcone. Et vous, Clotilde Champérage, dans un livre plus récent, publié l'an dernier par les éditions du CNRS, Société du crime, société au pluriel. Un tour du monde des mafias, car la mafia italienne est devenue tellement célèbre qu'on donne son nom à des tas d'autres organisations que vous citez, les yakuza japonais, les triades chinoises ou encore les organisations criminelles en Russie aujourd'hui. Est-ce que ces organisations-là ont un rapport quelconque avec la mafia et si oui, lequel ?
Alors les trois que vous venez citer, les triades, les yakuza et la mafia russe, sont effectivement très proches de la mafia sicilienne, alors que d'autres appellations de mafia sont données à des organisations qui n'ont rien à voir avec la mafia. Ce que ces trois mafias ont en commun avec la mafia sicilienne, c'est d'abord d'être évidemment du crime organisé, mais du crime organisé qui offre un service de protection et d'intermédiation d'une part. Sont aussi des organisations criminelles qui sont présentes dans les activités illégales, bien sûr, mais aussi énormément dans les activités légales. Et puis, sont aussi des organisations criminelles qui ont développé tout un folklore, des récits, des rites d'initiation, un langage particulier.
Alors nous allons nous intéresser à la mafia italienne, ou plus exactement d'ailleurs à la mafia sicilienne, parce que, vous le rappelez vous-même, Marianne Matarbonucci, il y a plusieurs organisations parallèle, comparable à la mafia sicilienne. Il y a la Camorra napolitaine, il y a la 'Ndrangheta calabraise. Est-ce que là encore, il y a des relations entre elles ? Quels sont les points qu'elles ont en commun ?
Alors, les relations apparaissent, mais elles apparaissent plutôt au XXe siècle. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont trois formes de criminalité endogène. Donc, la Camorra en Campanie, la 'Ndrangheta en Calabre et la mafia en Sicile. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle qu'elles vont établir des liens. Cela dit, il y a évidemment des points communs entre ces trois formes d'organisation qui apparaissent pour la Camorra et la mafia au XIXe siècle, peut-être un peu plus tôt pour la Camorra, alors que la 'Ndrangheta, c'est plutôt au début du XXe siècle, qui sont ce qu'on pourrait appeler l'industrie, évidemment, de la violence, et également le racket, un certain nombre d'activités dont on reparlera tout à l'heure, et une forme alors d'organisation, probablement plus centralisée pour la Sicile que pour la Campanie ou la Calabre, avec des rituels d'initiation qui passent par l'usage de la violence.
Alors, elles ont un autre point commun, puisque l'une est napolitaine, l'autre calabraise, et la mafia est sicilienne, c'est de naître, de se développer dans la partie la plus pauvre de l'Italie, c'est-à-dire le sud, le Mezzogiorno. Est-ce que c'est la pauvreté qui est à l'origine, en particulier, de la naissance de la mafia, Marianne Matarbonucci?
Alors, on a longtemps cru qu'il y avait un lien effectivement entre la pauvreté du Sud, ce sous-développement, et la naissance de la criminalité organisée. Les études historiques depuis quelques années ont un peu déplacé justement l'explication vers d'autres formes. Je veux dire qu'il y a indéniablement une arriération du Sud de l'Italie par rapport au Nord au moment où se forme l'unité italienne. Il y a une situation de brigandage très très importante qui va susciter une réponse répressive de l'État unitaire au début des années 1860, avec des lois qui instaurent des tribunaux militaires, des milliers d'exécutions, presque une espèce de guerre contre ce brigandage dans le Sud, qui est provoqué effectivement par cette situation de grande pauvreté des campagnes où domine l'économie du latifondo. Mais à côté de ça, ce que montrent les études récentes, c'est que la mafia n'est pas seulement apparue dans ce contexte-là, mais aussi dans un contexte où on fabriquait de la richesse, et notamment dans les bourgades qui environnent Palerme, où se développe une forme d'agriculture spécialisée qui est extrêmement rentable. Car pour qu'il y ait criminalité organisée, il faut qu'il y ait profit, il faut qu'il y ait ressources, donc que l'on fabrique de la richesse.
Et on la trouve, cette richesse, dans la partie occidentale de la Sicile, où se produit ce qui va faire apparaître la mafia proprement dite. C'était en 1960, lorsque les bandits siciliens 1860, lorsque les bandits siciliens déclenchaient une révolte à Palerme, provoquant l'arrivée d'un millier de volontaires venus du Piémont avec Garibaldi pour chasser de Sicile le représentant du roi, François II de Bourbon.
Je pars dans la montagne, Ficuzza. De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison.
Tu es fou de te mettre avec ces gens-là. Ce sont des bandits. Un falconeri doit être avec nous. Pour le roi.
Avanti, qui est ?
Guardi questo telegramma.
Regardez un télégramme.
L'insurrezione vinta nella città di Palermo resiste nelle province.
Insurrection réussie à Palerme, résistance.
Partiamo
en province.
Subito.
Scusate, è urgentissimo, stampa.
Envoyez ce télégramme. Garibaldi s'est embarqué avec 1000 volontaires à Quarto, à destination de la Sicile.
Un acte de piraterie a été commis le 11 mai. Une bande d'hommes armés a débarqué sur la côte de Marsala. D'après les derniers renseignements, cette bande, qui comptait environ 800 hommes, est commandée par Garibaldi.
Garibaldi ?
C'est la guerre !
C'est la révolution.
Alors si toutes les deux vous êtes d'accord pour dire que la mafia est née, même si elle ne s'appelle pas encore comme ça, elle est née en 1860. Pourquoi ? Parce que on trouve auprès de Garibaldi, qui, avec lequel commence ou va s'achever bientôt l'unité italienne, on trouve une organisation, une secte, comme l'appelle justement l'homme qu'on a cité au début, et qui est tout simplement la future mafia. Cela dit, le terrain était préparé, il y avait déjà des organisations à partir des quelle s'est construite la mafia, Clotilde Champérache?
Oui, la mafia n'est pas née en 1860 avec l'unité italienne. Ce qu'on avait déjà, c'était un terrain qui a favorisé l'émergence de la mafia. Donc des formes de proto-mafia, notamment deux pistes qu'on évoque, c'est celle des compagnies d'armes, d'un côté et celle des Campieri. Les compagnies d'armes, en fait, elles sont créées par les Bourbons dès le XVIe siècle et ce sont des gens qui sont censés faire régner l'ordre, puisqu'on a vu qu'il y avait des grands problèmes d'ordre en Sicile et même dans le reste de l'Europe. Donc les compagnies d'armes, elles sont a priori compétentes sur un territoire et elles sont censées régler les différends. Ce qui va se passer, c'est que très rapidement, elles vont en fait faire alliance avec les brigands eux-mêmes et proposer une pratique qu'on appelle la componenda, c'est-à-dire que la personne lésée, enfin le paysan par exemple à qui on a volé du bétail, va s'adresser aux compagnies d'armes, accepter d'être dédommagé seulement pour la moitié des pertes. Et pendant ce temps-là, les compagnies d'armes s'allient aux brigands pour retrouver le bétail et se partager les gains restants. Donc on a une dérive des compagnies d'armes du côté des brigands. Donc les compagnies d'armes vont régulièrement être supprimées puis réinstaurées. Donc on a beaucoup de passages comme ça. Les Campieri, c'est autre chose. Ce sont les gardiens qui sont utilisés par les personnes qui louent la terre pour la cultiver. Et donc ce sont des personnes qui ont un passé criminel fort, qui sont des gens violents, mais qu'on emploie justement pour défendre les terres.
Et qu'on va retrouver parce qu'ils sont du côté de l'unité italienne, puis ils vont se dresser contre le nouvel État italien. Il y a des révoltes qui se produisent, une situation d'anarchie que l'on retrouve au lendemain de l'unité italienne. Et ces brigands qui se multiplient, ces actes de brigandage qui se multiplient de la part de ce que on appelait une secte, ce que Turizzi Colonna a appelé une secte en 1864 et qui va bientôt s'appeler la mafia. On ne sait pas très bien quelle est l'origine, Marianne Matarbonucci, du mot mafia.
Oui, qui vient de l'arabe. Si vous me permettez juste une chose concernant l'unité, il ne faudrait pas qu'on s'imagine que l'unité, en tout cas le rattachement du Sud au royaume de Piémont-Sardaigne, a été voulu seulement par la mafia. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque les troupes de Garibaldi arrivent en Sicile, une partie de ces bandits vont soutenir, mais comme une partie des notables, des classes moyennes de Sicile, vont soutenir cette entreprise. Et ce qu'on voit dès ce moment-là, c'est que cette criminalité est une criminalité fondamentalement opportuniste qui est du côté des vainqueurs, qui est des côtés des gagnants. Hein. Donc c'est autour, en effet, comme le disait Clotilde Champérache, de l'unité italienne que se structure cette criminalité organisée en tissant des liens avec un État naissant et durablement. Ça, je crois que c'est très important. Alors pour revenir à l'étymologie, en effet, le mot vient probablement de l'arabe. Il y a plusieurs pistes possibles puisque les Arabes, les Arabes ont occupé la Sicile et puis les Espagnols qui eux-mêmes avaient été occupés par les Arabes ont aussi occupé la Sicile. Donc il y a différentes hypothèses dans le détail desquels nous n'allons peut-être pas rentrer, mais qui laisse supposer que le mot vient de là. En effet.
Alors, le mot qui recouvre une chose qu'on n'arrive pas à cerner. D'abord parce qu'il y a l'omerta, on n'a pas droit de révéler, chacun de ses membres n'a pas droit de révéler le fonctionnement de l'organisation, mais en plus parce que cette organisation, eh bien, elle est complexe. Il y a un député, je crois, d'une commission d'enquête envoyée par le gouvernement italien, qui écrit en 1876 « Il est plus facile de dire ce que la mafia n'est pas que d'établir avec logique ce qu'elle est. Elle n'a pas de statut, ni de partage des bénéfices, ne tient pas de réunion, n'a de chef reconnu, sinon les plus forts et les plus habiles. » Au fond, c'est assez difficile parce que c'est une espèce de nébuleuse, un peu, bon, il n'y a pas d'autre rapport, comme Al-Qaïda aujourd'hui, hein, qui recouvre des réalités très différentes, Marianne Matarbonucci.
Oui, alors on voit effectivement, à partir de l'unité italienne, ces responsables politiques commençaient à s'interroger sur les raisons, en effet, de l'insécurité dans le Sud et sur cette organisation dont on parle de plus en plus. Le mot apparaît pour la première fois dans un document administratif en 1865. Comme vous le disiez, des enquêtes parlementaires sont diligentées au milieu des années 1870. Il y a également des chercheurs, des sociologues, des économistes qui commencent à réfléchir sur ce phénomène qu'on essaye de cerner. Alors, comment le définir à ce moment-là ? Franchetti parlait d'industrie. Franchetti, qui a été justement, qui est un homme du Nord, qui vient découvrir les conditions économiques et sociales de la Sicile, parle d'industrie de la violence. Tous sont d'accord pour dire qu'il y a cet usage, effectivement, systématique de la violence et une organisation qui profite d'un contexte qui est quand même un contexte d'arriération sociale.
Et d'autant plus secrète qu'elle impose la loi du silence à tous ceux qui sont admis.
Ici, on peut tout dire et hors d'ici, rien. Qui parle ici est vivant, qui parle dehors est mort. Gaetano est ici. On dit qu'il est brave et qu'il désire être admis. Les renseignements sont bons.
Il a du courage et de l'honneur. Caetano en répond par le sang.
Venite avanti.
Avancez.
Che bramate.
Que désirez-vous?
Desidero diventare picciotto onorato.
Je désire devenir membre honorable. Que signifie membre honorable? Qui a du miel dans la bouche et un rasoir dans le cœur. Et pourquoi? Le miel sert à adoucir les questions et le rasoir à supprimer les infamies. Je ferai mon devoir. Baisez la main de votre chef. Vous êtes notre frère de chair pour la vie et la mort.
Alors, ce qui est extraordinaire, on l'a entendu dans cet extrait de film, c'est que cette organisation criminelle passe son temps à invoquer le code de l'honneur. Il en est constamment question. Au fond, elle essaie de se donner une espèce de légitimité, se fait passer pour des bandits d'honneur. Clotilde Champerrat, c'est assez extraordinaire.
Mais c'est tout le drame de la mafia, c'est d'associer des valeurs positives à quelque chose qui est profondément négatif, qui est la mafia, qui est une association criminelle.
L'honorable société, comme elle s'appelle
les
aussi.
Les hommes d'honneur, sans arrêt, on a ce motif qui est mis en avant, y compris par les repentis qui, lorsqu'ils se repentent, disent « Avant, nous étions des hommes d'honneur, maintenant, nous ne le sommes plus parce que nous trafiquons dans la drogue. » Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, tout ce qui est autour de l'honneur, du respect, de la vérité, ça se réduit au rapport intermafieux. C'est-à-dire qu'on est honorable par rapport aux autres mafieux, on dit la vérité aux autres mafieux, mais vers l'extérieur, on ne va pas avoir ce comportement loyal.
Alors un code de l'honneur étrange qui se manifeste par la vendetta, des luttes interminables pour venger la famille, l'omerta, la loi du silence, imposée d'ailleurs aussi à la population qui se tait quand on cherche des renseignements sur elle, et puis alors l'organisation en famille avec à leur tête des parrains et une organisation qui va agir impunément pendant très longtemps, pendant plus de 100 ans, protégée par ces d'autant plus si vous voulez que comme la Camorra d'ailleurs, eh bien la mafia a infiltré tous les rouages de l'État, la magistrature et même la police, ce qui explique l'impunité dont elle a bénéficié dans la plupart des procès dont elle a été victime.
Répondez au président, per piacere, non guardate.
Répondez au président, pas à moi.
Si, eccellente. Da quanti anni appartenete alla polizia?
Depuis quand êtes-vous dans la police? Six ans.
Prima di essere sbirro, scusate, poliziotto.
Avant d'être sbirro, excusez-moi, policier, que faisiez-vous?
Il disoccupato.
Chômeur.
E durante quel periodo avete commesso uno di questi?
E avez-vous commis l'un de ces délits?
Lesioni, tentato omicidio,
tentative d'homicide, contrebande, attaque à main armée?
Tutti, signor presidente.
Tous, monsieur le président.
Tutti. Dunque. À représenter la
loi. Donc, le représentant de la loi, l'accusateur de Caetano, est un délinquant.
Mais
bien sûr, l'État a compris que contre la Camorra, il fallait des gens pratiques. Des camorristes.
Rangta Camorra è mafia, è società organizzata. Rangta Camorra è mafia. Sicilia, Napoli, Calabria, onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta, vitti navigari. Cinque veli e sette marinari, uno di chisti me vosi domandari. Giovanotto, dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia. Sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue troviamo per la via. 'Ndrangheta, Camorra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà.
Drangheta, Camorra e mafia, un chant traditionnel, interdit je crois en Italie même aujourd'hui, et qui évoque ces trois organisations, mais qui de ce point de vue-là se ressemblent, c'est-à-dire qu'au fond elles ont agi impunément pendant très longtemps, tout simplement parce qu'elles avaient infiltré la police, l'État, la justice. Comment était-ce possible, Marianne Matarbonucci?
Bien, je crois que le lien à la politique, effectivement, est absolument essentiel, puisque ce que les mafieux attendent des hommes politiques, politique, c'est qu'ils usent de leur pouvoir d'influence pour faire ajuster les procès, c'est-à-dire pour faire évoluer les procès dans un sens qui sera favorable aux accusés. Picciotta, qui était le frère d'armes de Salvatore Giuliano, le bandit dont nous parlerons demain, eh bien, a dit à un moment donné « Justice, police, mafia, nous formons un seul corps, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Bon, je crois que ça rend bien compte, effectivement, de ce processus. Alors, cela apparaît dès le 19e siècle, par exemple, au moment de l'affaire Notar Bartolo, qui est le premier homicide excellent en Sicile, où un homme très puissant, qui a été le maire de Palerme et qui était le directeur de la Banque de Sicile, est assassiné en 1893. Les auteurs de l'assassinat sont des mafieux qui ont été, qui ont en fait passé un contrat donc pour assassiner cet homme politique à la demande de Palizzolo, qui est un député de Sicile à ce moment-là. Parce qu'il y a des intérêts économiques autour de la Banque de Sicile très importants en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment se forme autour de Palizzolo, donc qui est mis en accusation, une solidarité avec des associations qui sont créées et qui dénoncent le procès qui lui est fait comme étant un procès fait à la Sicile tout entière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sentiment régional dès ce moment-là que la mafia instrumentalise à son profit.
Quelle est l'activité principale au 19e siècle? Ensuite, ça va évoluer, on va voir apparaître la drogue. Mais l'activité, de quoi, au fond, vit la mafia, Clotilde Champérache, au 19e?
Ce qui est amusant au 19e siècle, c'est de voir que lorsqu'on demande aux mafieux ce qu'ils font, ils se disent médiateurs, hommes de paix. Donc, ce sont des gens qui proposent un ordre alternatif. On l'a vu, on a des problèmes d'ordre en Sicile. L'unité italienne n'a pas tout résolu. En général, la population sicilienne fait peu confiance aux forces de l'ordre, à la justice de l'État italien. Donc la mafia se présente comme une solution alternative pour aider à résoudre des conflits, à aller beaucoup plus vite aussi que la justice italienne. Et puis ce que fait aussi, dès le 19e siècle, la mafia sicilienne, c'est qu'elle est présente dans l'économie, surtout sur les marchés de gros, les marchés de Palerme, dans l'agriculture. Et là aussi, dans un contexte où les gens ne se font peu confiance, la mafia se propose en intermédiaire qui va aider à la transaction en garantissant que les deux parties vont se comporter correctement. Et tout ça se fait en échange d'un paiement, le paiement du pizzo, qui est encore pratiqué aujourd'hui. Donc au départ, le pizzo, ce n'est pas seulement du racket, c'est présenté comme le paiement pour une protection qui va être de moins en moins effective dans le temps.
Marianne Matarbonucci.
Non, effectivement, c'était, je voulais aussi dire que la mafia crée l'insécurité pour ensuite profiter de cette insécurité, comme le rappelait Clotilde, en effet, en prélevant ce racket. Alors, il y a aussi une activité importante au 19e siècle, qui est le vol de bétail, hein, qui est extrêmement répandu et dont profite aussi la mafia dans les campagnes siciliennes.
Alors, tout cela impunément, puisqu'elle est présente dans les rouages de l'État, elle est présente où elle a des amitiés ou dans les gouvernements, dans les municipalités. Au fond, elle n'est pratiquement pas touchée jusqu'à ce que, en 1922, arrive au pouvoir Mussolini, qui décide de liquider la mafia sicilienne en s'efforçant de combler le fossé qui sépare encore le nord et le sud de l'Italie.
Non esistono questioni settentrionali o meridionali. Esistono...
La question du nord ou du sud n'existe pas. Seule la question nationale existe. Parce que la nation est une famille, et dans cette famille, il ne doit pas y avoir de fils privilégiés et de fils abandonnés.
Et c'était donc une chanson fasciste, le régime fasciste qui a été pratiquement le seul depuis la naissance de la mafia à lutter ouvertement contre elle. Vous citez dans votre livre, Clotilde Champérache, cette formule de Mussolini. Quand finira la lutte contre la mafia? Elle finira non pas seulement quand il n'y aura plus de mafieux, mais seulement quand le souvenir de la mafia aura définitivement disparu de la mémoire des Siciliens. Alors à quoi correspond cette... Alors que je crois que le régime fasciste a été, dans son ascension, soutenu un peu au début en Sicile, en tout cas par des mafieux, voilà qu'ils se dressent contre eux, ça a été même... On a même décimé la mafia.
Alors c'est vrai qu'au départ, les mafieux ont aidé les fascistes à arriver au pouvoir. Ce qui se passe rapidement, mais c'est un conflit de puissance, notamment de souveraineté sur un territoire. Les mafieux contrôlent le territoire et ça ne correspond pas du tout à l'esprit fasciste qui veut rétablir l'État totalitaire qui contrôle tout.
Et refusant un État dans l'État, comme l'était devenu la mafia.
Oui. Et puis il y aurait eu une vexation subie par Mussolini qui se rend en Sicile et le maire d'un village qui l'accueille lui aurait fait l'insulte de dire « Pourquoi êtes-vous venu accompagné d'hommes armés ?» Vous êtes sous ma protection, donc vous ne craignez rien. Donc Mussolini aurait très mal pris les choses. Et c'est vrai qu'il va envoyer en Sicile un homme qui connaît déjà le terrain, le préfet dit, préfet de fer, Cesare Mori, qui lui va lancer une campagne de répression. Il a tous les pouvoirs et on va assister au premier procès, grand procès anti-mafia, avec des milliers d'inculpés sur la période 27 jusqu'à 1929.
Alors, il n'est pas, vous le rappelez, Marianne Matarbonucci, en fait, Maurice, préfet de fer, n'est pas fasciste en réalité. Il est bien décidé à liquider la mafia, mais enfin, il est en marge. D'ailleurs, il a été chassé de ses fonctions, il a été démis de ses fonctions, disons limogé, même si on ne l'a pas présenté de cette manière-là, par Mussolini en 1928. Il arrive en Sicile où il s'installe dans ses fonctions en 24, il est limogé en 28.
C'est au départ un serviteur de l'État. Quand il était en poste dans le Nord, il a d'abord combattu les squadres fascistes, justement, pour maintenir l'ordre public. Donc, effectivement, il est nommé pour détruire la mafia, ce qu'il fait, on nous le rappelait, avec des moyens qui sont des moyens d'un régime totalitaire. C'est une guerre qu'il livre en Sicile. Il encercle des villages, il fait arrêter des centaines d'individus. Quelquefois, la police utilise la torture. Et il va réussir, non pas à éradiquer la mafia, mais en tout cas, à provoquer le départ d'un certain nombre de mafieux à l'étranger et à faire en sorte qu'elle se tienne à carreau pendant quelques années. Mussolini le congédie quand il estime que le fascisme a gagné la bataille, puisque en régime fasciste, on mène des batailles successives, donc celle-ci devait forcément avoir un terme. Le phénomène n'a évidemment pas disparu et vers 1936-1937, de nouveau, il y a de graves troubles de l'ordre public en Sicile parce que les causes même du développement de la criminalité organisée n'ont pas été traitées, et en particulier les causes économiques et sociales, même si Maury a quand même essayé d'agir sur cette criminalité agraire, par exemple en faisant marquer le bétail, en faisant abattre les haies dans les campagnes, pour obtenir au fond plus de transparence dans les échanges.
En réalité, cette politique n'a fait que déplacer le problème, parce que vous le rappelez aussi, elle a incité la mafia à... Il a exporté la mafia, elle s'est installée aux États-Unis, nous en reparlerons demain, elle s'est même installée, on l'oublie souvent, et il y était déjà d'ailleurs en Tunisie, Marianne Matarbonucci.
Oui, la Tunisie qui était le lieu d'exil le plus proche, à portée de bateau pour les Siciliens. Et donc souvent, effectivement, certains mafieux, pas que des mafieux d'ailleurs, pendant le fascisme, des antifascistes aussi, iront se réfugier en Tunisie. Ou soit ils resteront, soit plus généralement ils quitteront la Tunisie pour aller en direction des États-Unis.
Qui était la Tunisie, qui était, il faut le rappeler, un protectorat français. D'ailleurs, la France se plaint justement de cette arrivée de personnes un peu douteuses. Cela dit, la mafia était déjà installée depuis longtemps aux États-Unis.
Oui, alors il y a une criminalité en effet qui s'est développée aux États-Unis dès le début du XXe siècle, qui n'est pas spécifiquement sicilienne, qui est issue d'une immigration de masse italienne. Et on va trouver une criminalité chez des Napolitains d'origine, Calabrais également siciliens.
Nous en parlerons demain, donc dans la deuxième partie de ce 2000 ans d'histoire exceptionnelle consacrée à la mafia. Je rappelle en attendant, pour en savoir plus, qu'on peut lire vos livres. Clotilde Champérache, vous venez de publier Société du crime, un tour du monde des mafias aux éditions du CNRS. Et vous, Marianne Matarbonucci, vous êtes l'auteur d'Une histoire de la mafia, publiée chez Complexe en 1999, puis qui est malheureusement épuisée, mais peut-être bientôt rééditée. À lire également Cosa Nostra, la mafia sicilienne de 1860 à nos jours, de John Dickey, chez Perrin, collection Timpus. Et puis Mafia, l'industrie de la peur, de Jacques de Saint-Victor, publié aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Guépard de Luchino Visconti, disponible en DVD chez Pathé, et Lucia et ses guapes de Pasquale Squitieri. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ludovic Asselot et Aurélie Fortin, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, donc deuxième partie de cette émission consacrée à l'histoire de la mafia.